Mal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Mickaël.
Bonjour Marion. Il est 7h10 à Tapachula. Tapachula, cette ville du sud du Mexique qui voit affluer depuis le début de l'année des milliers de migrants haïtiens, étape dans leur voyage vers les États-Unis. On en parle avec notre invité du jour. On va revenir aussi sur le shutdown évité encore aux États-Unis. Et puis, ces longues heures de discussion hier en Guadeloupe, Benoît Ferrand.
Oui, 4 heures au total de discussion entre les élus locaux et le collectif des organisations en lutte. Discussion qui ne porterait pour l'instant que sur la mise au point d'un accord de méthode.
À tout à l'heure, Benoît, et bienvenue à tous. Une semaine tout juste après l'investiture d'un nouveau gouvernement, une première en Haïti. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous.
Le premier conseil des ministres du chef du gouvernement, Ariel Henry.
Oui, c'est à la une du Nouvelliste ce matin. Pour la première fois depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse, un conseil de ministres a eu lieu au Palais National. C'était donc hier jeudi, sous la direction du premier ministre de facto, Ariel Henry, écrit le journal. Au menu de la réunion, selon les informations du Nouvelliste, l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. Le premier ministre aurait aussi décidé de, je cite, « lancer des programmes sociaux pour apaiser les esprits pendant les fêtes de fin d'année », selon un membre du cabinet cité toujours par le quotidien haïtien. Et le journal de conclure, Ariel Henry entre en possession du Palais National.
C'est une décision qui concernera forcément tous les Haïtiens qui rêvent d'États-Unis. Mexico et Washington l'ont annoncé hier. Les mesures en vigueur sous l'administration Trump vont en partie être réactivées. Dès lundi, les migrants qui veulent entrer aux États-Unis devront attendre au Mexique la réponse à leur demande d'asile. Une annonce qui ne dissuadera sans doute guère la nouvelle caravane de migrants haïtiens qui s'était lancée il y a maintenant 2 semaines de Tapachula au sud-ouest du Mexique, tout près de la frontière guatémaltèque. Des milliers de personnes qui ont pris la direction des États-Unis dans l'espoir de passer la frontière. On en parle avec notre invitée du jour, Catherine Bourgeois de l'Université Libre de Bruxelles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, vous êtes passée par Haïti, par la République dominicaine et vous êtes rattachée maintenant depuis 2 ans au laboratoire mixte international MESO basé au Mexique. Et vous vous êtes rendu à ce titre à Tapachula. J'aimerais que vous nous décriviez à quoi ressemble ce que certains décrivent comme une ville-prison pour les migrants. Mais d'abord, juste expliquez-nous comment se fait-il que ce soit à Tapachula qu'arrivent des milliers d'Haïtiens, puisque pour situer, hein, pour nos auditeurs, on est là de l'autre côté des Caraïbes, côté Pacifique.
Oui, tout à fait. Et les migrants haïtiens qui arrivent à Tapachula, ils ne viennent pas en direct d'Haïti. En fait, ce sont des personnes qui sont entrées dans un itinéraire, un projet migratoire de plus longue haleine qui a déjà commencé il y a quelques années pour la plupart. Et en général, ils sont passés par le Brésil principalement, par le Chili, mais aussi par la Guyane française ou bien le Venezuela et d'autres pays proches. Et ils ont essayé de s'installer dans ces pays et de recommencer une vie là-bas. Pas toujours avec beaucoup de succès, généralement sans beaucoup de succès. Et ils décident à un moment donné de reprendre la route avec en point de mire les États-Unis qui continuent à avoir comme ça une image d'Eldorado pour des milliers de personnes, pas seulement les Haïtiens, mais aussi des milliers d'autres migrants venus d'autres régions. Et alors en fait, dans leur parcours qui se fait à la fois à pied, en transport public, en bus, par bateau, etc., ils arrivent au Mexique par le Guatemala et Tapachula, en plus de ça, est une petite ville où se trouve la commission mexicaine d'aide aux réfugiés. Et les Haïtiens qui arrivent au Mexique, en fait, pour la plupart, vont passer devant cette institution pour essayer de régulariser temporairement leur situation. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à Tapachula.
Voilà, d'où leur présence dans cette ville. À quoi, vous qui vous êtes rendu, donc, à quoi ressemble Tapachula ?
Oui, alors à Tapachula, donc il y a vraiment des milliers de personnes, aussi bien d'Amérique centrale, d'Afrique, d'Asie et bien sûr de la Caraïbe et principalement des Haïtiens. Les Haïtiens sont, depuis le début de ce trajet, de cette route vers les États-Unis, sont toujours passés par Tapachula. Mais là, on a vu une augmentation vraiment fulgurante à partir du mois d'août de cette année. C'est-à-dire qu'il y a environ 20-30 000 Haïtiens qui se trouvent à Tapachula actuellement.
Une explosion, dites-vous, du nombre d'arrivées d'Haïtiens à Tapachula en termes de chiffres. Est-ce que l'on a des données un petit peu précise qui traduit cette explosion ou pas?
Oui, alors en fait, il y a les chiffres donc de la commission mexicaine d'aide aux réfugiés. Et en fait, quand on les analyse, on voit qu'entre janvier et juillet 2021, il y a plus de 13 000 Haïtiens qui ont sollicité l'asile au Mexique. Donc c'est plus ou moins un peu moins de 2 000 personnes par mois. Et on remarque qu'au mois d'août, en fait, il y a plus de 5 000 personnes haïtiennes qui demandent l'asile au mois d'août. Et entre septembre et novembre, donc sur une période de 3 mois, là, on est à plus de 30 000 Haïtiens qui demandent l'asile en l'espace de 3 mois. Donc, on explose vraiment les derniers chiffres qui étaient du mois de juillet.
Et comment ils vivent, ces Haïtiens, à Tapachula, précisément ?
Alors, ils vivent dans des conditions qui sont précaires, qui sont difficiles. Il y a des gens qui ont de quoi, en fait, louer un petit espace, une chambre. Mais bon, tout ça, il faut financer. Donc, beaucoup s'insèrent dans l'économie informelle, la vente de fruits et de légumes, pour payer, en fait, ces logements qui sont ultra précaires. À côté de ça, il y a aussi des gens qui se trouvent dans les centres d'hébergement qui sont organisés par la société civile locale. Donc ça, c'est un peu la situation. Maintenant, depuis la semaine dernière, en fait, il y a aussi des milliers de personnes qui ont installé des espèces de tentes dans le stade de Tapachula, le stade olympique de Tapachula, dans l'attente, en fait, d'avoir un ticket de bus et d'être emmenés dans d'autres régions du Mexique où ils vont pouvoir continuer leur demande d'asile pour justement alléger un peu...
Cette pression migratoire sur Tapachula, on le comprend bien. Quel est le but concrètement pour ces gens, puisque vous nous dites qu'ils ont l'espoir de se rendre aux États-Unis? Quel est le but d'entreprendre des démarches de demande d'asile au Mexique?
Alors en fait, quand ils arrivent au Mexique, ils n'entrent pas avec un formulaire migratoire comme pourraient le faire d'autres voyageurs, je vais dire. Et donc, en l'absence de ce document-là, en fait, ils ne peuvent pas être légalement sur le territoire mexicain. Et donc, ils sont sujets ou susceptibles à arrestation, déportation, etc. Or, s'ils veulent atteindre la frontière nord, ce sont des milliers de kilomètres qu'ils doivent traverser dans un pays qui, par ailleurs, est assez dangereux. Donc, il faut essayer de mettre de son côté toutes les conditions pour que cette traversée-là se fasse autant que faire se peut dans les meilleures conditions. Et donc, demander l'asile est une manière d'essayer d'obtenir en fait une régularisation temporaire et de pouvoir par la suite en fait circuler. Pendant toute la procédure de la demande d'asile, en fait, les demandeurs d'asile peuvent travailler légalement.
Vous avez évoqué une explosion du nombre d'arrivées à Tapachula au mois d'août. Est-ce que l'on a une explication pour comprendre ce calendrier-là? Est-ce que ce serait pas, selon vous, dites-nous, des annonces de la part aussi du gouvernement américain, de l'administration Biden, qui ont créé un appel d'air?
Peut-être en partie, oui. C'est-à-dire qu'avec l'assassinat du président Moïse Jovenel en début juillet 2021, les États-Unis ont rapidement déclaré un statut de protection temporaire pour les Haïtiens. Alors, c'était les Haïtiens qui sont déjà présents sur le territoire états-unien.
Le TPS, je le précise, effectivement.
Oui. Effectivement, le TPS. Maintenant, il est effectivement, on a remarqué au mois d'août une arrivée impressionnante d'Haïtiens qui venaient donc du Chili et du Brésil principalement. En fait, dans l'espoir d'aller aux États-Unis et de pouvoir intégrer ce programme du TPS. Donc, peut-être que dans un certain sens, il y a eu un appel d'air, mais de toute façon, ce flux existait et cette route, elle existait déjà depuis 2015. Donc, elle n'est pas nouvelle, mais il y a eu un boom, effectivement.
Il y a eu un boom. Et on a tous en mémoire la crise de Del Rio, ces images d'Haïtiens pourchassés par les gardes frontières à cheval, les renvois qui ont suivi par charter vers Port-au-Prince. Tout cela, ça n'a pas dissuadé les arrivées et les tentatives de traverser pour atteindre la frontière vers les États-Unis?
Alors, ça les a freinés, en tout cas. Donc, actuellement, dans la ville mexicaine qui est en face de Del Rio, il y a effectivement beaucoup moins d'Haïtiens qu'au mois d'août et au mois de septembre. Et c'est vrai que ça les a freinés et que les gens, du coup, demandent aussi plus facilement en fait l'asile au Mexique parce qu'ils savent que pour le moment la frontière est fermée, que c'est très compliqué de traverser pour aller aux États-Unis et qu'ils vont devoir probablement rester un temps au Mexique. Et donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces nombreuses demandes pour essayer de se régulariser.
Et après Del Rio, on a aussi évoqué des retours volontaires d'Haïtiens coincés au Mexique vers leur pays d'origine. Volontaires, véritablement, Catherine Bourgeois, ces retours.
Oui, alors volontaire, ça fait partie du vocabulaire avec de nombreux euphémismes qu'utilisent les politiques migratoires, hein, que ce soit celle du Mexique ou des États-Unis ou de l'Union européenne. Mais donc, il ne s'agit pas du tout de retour volontaire. En fait, les organisations de défense des personnes migrantes, elles ont signalé les nombreuses pressions qui ont été exercées par des agents de l'Institut national de migration, donc mexicains, sur les Haïtiens, qui soient d'ailleurs déjà demandeurs d'asile ou en train d'essayer de déposer leur demande d'asile, d'accord ? Et en fait, ils ont fait des pressions pour que les gens signent des documents de demande de retour volontaire. Et on a vu, en fait, depuis la fin septembre, d'ailleurs, la reprise des vols au départ des États du Chiapas et de Tabasco, donc ça, c'est dans le sud-est du Mexique, à destination de Port-au-Prince. Et en fait, tout ça en accord avec l'ambassade d'Haïti au Mexique.
Catherine Bourgeois, merci beaucoup, de l'Université libre de Bruxelles en ligne avec nous de Mexico. Merci pour votre éclairage. Et on referme ainsi cette page migratoire. Il est 7h21 à Tegucigalpa.
Radio Francia Internationale. Las voces del mundo.
Tegucigalpa, le Honduras, une semaine après l'élection présidentielle. Le décompte se poursuit toujours à Arim Lipold. Néanmoins, la droite a reconnu sa défaite. Hein, déjà, et la gagnante autoproclamée, Xiomara Castro, prépare son mandat.
Oui, exactement. Hier, elle a dévoilé son programme pour les 100 premiers jours de son gouvernement. Michael, la présidente élue, a présenté 7 priorités pour son action, dont la création d'emplois, la relance de l'économie et le combat contre la corruption, vous vous souvenez, thème majeur de sa campagne. Tout ça s'est allié dans la Prensa, qui publie également une photo de la rencontre entre Xiomara Castro et la chargée d'affaires américaine au Honduras, Colin A. Hoey. Rien n'a filtré de leur réunion, si ce n'est ce tweet de la diplomate américaine qui félicite Xiomara Castro pour sa victoire, écrit El Heraldo. Une victoire, rappelons-le, qui n'est donc pas encore officiellement confirmée par les autorités électorales.
Voilà, donc pour le Honduras, c'était la nuit dernière au Congrès des États-Unis.
Mr. President,
the Majority Leader,
I'm happy to let the American people know the government remains open.
Je suis heureux de faire savoir aux Américains que le gouvernement reste ouvert, déclare soulagé Chuck Schumer, le chef de file des démocrates du Sénat, sur le fil du rasoir. Une fois de plus, le Congrès évite le shutdown, la paralysie de l'État fédéral, en votant une prolongation du budget jusqu'à la mi-février, Guillaume Nodin.
C'est devenu un scénario classique au Congrès. La peur d'une paralysie des agences fédérales, faute de financement, et finalement, in extremis, un vote qui permet de continuer à les faire fonctionner. C'est ce qui est encore arrivé ce jeudi. La Chambre des représentants a d'abord voté un texte qui finance le budget fédéral jusqu'au 18 février avant de le faire passer au Sénat. C'est là que quelques républicains menaçaient de le faire capoter à moins de voter pour vider de sa substance l'obligation vaccinale pour les entreprises de plus de 100 salariés. C'est l'une des mesures phares de Joe Biden pour tenter de faire monter le taux de vaccination dans le pays. Finalement, les républicains réfractaires ont eu leur vote, ils l'ont perdu. Dans la foulée, l'accord bipartisan conclu dès hier entre chefs de groupe a été voté à une large majorité. Tout est bien qui finit bien donc. Les républicains les plus radicaux ont pu faire entendre leur position. Joe Biden voit sa mesure validée et le gouvernement continue à fonctionner. Mais les prochains jours s'annoncent tout de même chargés pour le Congrès. La nouvelle étape sera de relever le plafond de la dette pour éviter un défaut de paiement du pays à la mi-décembre, puis de voter sur le plan de dépenses sociales et climatiques. Cela s'annonce autrement plus compliqué. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
Et Joe Biden devrait promulguer aujourd'hui ce nouveau budget prolongé. La presse américaine toujours focalisée sur le débat sur le droit à l'avortement, alors que la Cour suprême examine à Rim une loi du Mississippi qui interdit l'IVG après 15 semaines de grossesse.
Oui, selon un chroniqueur conservateur qui s'exprime aujourd'hui dans le Washington Post, vous savez, la plus haute instance juridique du pays s'apprête à corriger des décennies d'erreurs. Nous faisons partie des 7 pays au monde, dont la Chine et la Corée du Nord, qui autorisent un avortement après après la 20e semaine de grossesse, écrit Mark A. Thiessen. Le chroniqueur se réjouit du fait que son pays pourrait bientôt rejoindre les pays européens comme la France et l'Allemagne, écrit-il, qui interdisent l'IVG au-delà de la 15e semaine.
Toutefois, Harim, l'auteur de l'article, n'oublie pas qu'il y a de larges exceptions à cette limite, plus large qu'aux États-Unis.
Exactement. Et selon le chroniqueur, l'arrêt Roe versus Wade de 1973, vous savez, qui garantit le droit à l'avortement aux États-Unis, pourrait bien être remis en cause, car lors de l'audience, aucun des juges libéraux n'a présenté des arguments pour défendre cet arrêt. Et le juge conservateur Brett Kavanaugh a présenté de nombreuses décisions de la Cour suprême dans lesquelles elle a justement corrigé des jugements précédents, à commencer par la ségrégation raciale approuvée en 1897. D'après ce qu'on pouvait entendre mercredi dernier, poursuit le chroniqueur dans le Washington Post, il paraît inimaginable que la Cour rejette la loi de l'État de Mississippi, en la déclarant contraire à la Constitution.
La réponse prévue, on la rappelle en principe, au mois de juin. Merci beaucoup, Harim Lipol. On termine par l'interview que tout Hollywood a dû regarder hier, celle de l'acteur et producteur du western Rust, Alec Baldwin. Première interview formelle accordée à la chaîne ABC depuis la mort tragique de l'assistante photo du film lors du tournage, tuée par un tir de revolver lors d'une scène, arme que tenait Alec Baldwin. Le journaliste qui interviewait l'acteur hier lui a demandé s'il s'estimait responsable. Écoutez sa réponse.
Non.
J'ai le sentiment que quelqu'un est responsable de ce qui est arrivé. Et je ne peux pas dire qui c'est, mais je sais que ce n'est pas moi. Je veux dire honnêtement, si je m'étais senti responsable, je me serais peut-être tué. Jamais je ne pointerais une arme sur quelqu'un. Jamais, jamais. C'est la formation que j'ai eue. On ne pointe pas une arme sur quelqu'un. On n'appuie pas sur la gâchette.
Alec Baldwin sur ABC hier soir. L'armurière qui avait la responsabilité des armes à feu sur le tournage a reconnu une négligence de sa part, mais pour l'heure, l'enquête se poursuit et aucune arrestation n'a eu lieu.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Mickaël.
En Guadeloupe, pas moins de 4 heures de discussion hier entre élus locaux et collectifs des organisations de lutte.
Discussion et pas négociation. Discussion qui ne porterait pour l'instant que sur la mise au point d'un accord de méthode. Il y a eu quand même un point sur lequel tout le monde est d'ores et déjà d'accord. Demander à l'État de participer aux futures négociations. Écoutez le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus.
Ce qui était important, c'était déjà pouvoir se parler. Et ça a été une très bonne chose, mettre en place une méthode de travail. Demander encore la venue d'une délégation interministérielle, chose que nous avions déjà faite, que nous allons encore réitérer, parce qu'il faut que nous puissions sortir de cette crise et sortir par le haut. Syndicats, collectifs, élus guadeloupéens, et nous sommes prêts à répondre, je le dis, sur la plupart des revendications qui relèvent de notre compétence en matière d'emploi pour les jeunes, sur l'eau, sur le transport, sur la vie chère. Et je le dis encore que personnellement, on ne peut pas accepter que des familles soient privées de salaire, de sanctions. Il faut que l'État trouve un moyen par rapport à l'éloignement de la Guadeloupe, notre situation. Car quand vous sanctionnez 40 médecins libéraux, des infirmiers, infirmières, vous diminuez l'offre de soins en Guadeloupe et ça risque d'être pire.
Le président du Conseil régional de la Guadeloupe, Harry Chalus. En Martinique, en revanche, on s'est mis d'accord sur la méthode et on est donc entré dans le vif du sujet, avec notamment hier la première réunion de l'atelier santé. Réunion, dit-on, dans une ambiance plutôt bon enfant. Mathieu Malot est le secrétaire départemental adjoint de Force ouvrière pompiers. Il est au micro de Sophie Lonetté.
Alors sur l'atelier santé, au bout de plus de 3 heures de discussion, nous avons échangé avec les différentes autorités. Nous avons rendez-vous, l'ensemble de l'intersyndicale santé, pour l'atelier santé. Nous avons rendez-vous lundi matin à 10h pour continuer sereinement les débats autour de cette problématique qui est l'obligation vaccinale.
Comment est-ce que ça va se poursuivre?
Alors ça va se poursuivre toujours sur le même schéma. Donc les revendications sont les mêmes que celles qui sont mentionnées sur les différentes plateformes de revendications, avec les différents préavis concernant les suspensions en cours, concernant le non à l'obligation vaccinale, non au passe sanitaire et les moyens humains, matériels qui sont demandés au niveau de la santé de manière générale.
Voilà, Michael. Discussion en cours en Martinique. Bon après-midi, bon week-end, à lundi.
Merci, bon week-end à vous, Benoît Ferrand, et aux équipes de La Première. Bon week-end à tous nos auditeurs qui nous écoutaient, où que vous soyez sur la planète. Merci à Claude Battista qui était à la réalisation de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques aujourd'hui. On se retrouve en effet lundi pour une nouvelle semaine. En attendant, vous le savez, vous pouvez nous retrouver, nous réécouter sur RFI Pure Radio, sur les plateformes de podcast. Et n'oubliez pas de commenter et de suivre l'actualité des Amériques sur Twitter @RFI Amérique.